un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Que faut-il penser des clients mystères, ces faux usagers censés observer pour ne pas dire espionner le travail des employés, évaluer pour ne pas dire surveiller la qualité et qui sont cachés derrière un déguisement de consommateur ou d'usager lambda? Il est vrai que c'est un job pas fatigant, cool et relativement bien payé. Il y a même un site pour ça qui s'appelle clientmystère.com, pour moi qui ai toujours rêvé d'être mystérieuse. C'est aussi une astuce pour voyager en avion gratos. Mais selon les points de vue, on peut aussi considérer cette pratique comme du flicage pur et simple, contraire au droit du travail. Récemment, une histoire d'arroseur arrosé a fait grand bruit dans le milieu des contrôleurs de bus et de train, puisqu'ils se sont retrouvés eux-mêmes contrôlés, sans le savoir, par des clients mystères. Portaient-ils bien leur tenue? Est-ce qu'ils fumaient? Est-ce qu'ils verbalisaient correctement et suffisamment? Île-de-France Mobilité, qui les a dépêchés, a jugé dans Le Parisien ce testing tout à fait nécessaire pour évaluer la qualité du service global. Certains conducteurs, en revanche, se sont sentis épiés et trahis par leurs employeurs, et un délégué syndical a qualifié cette pratique de délation et a demandé qu'on consacre plutôt ce budget à recruter du personnel. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on s'intéresse à la vie mouvementée des contrôleurs avec deux autres histoires racontées par Aladine Zayan.
Prénom c'est Fares, je suis contrôleur assermenté et agréé à la SNCF. Je verbalise des gens, je me promène dans les trains ou dans certaines gares dans... l'ouest parisien. À la base, je suis pas contrôleur, je travaillais en tant que agent commercial à la SNCF. Suite à une réorganisation et une dizaine de suppressions d'emplois, j'ai été redirigé à ce poste-là et j'avais pas trop le choix en fait, si je voulais rester dans la boîte. Quasiment toute ma famille, on est dans le transport, famille, amis proches et autres, donc j'en ai beaucoup, soit SNCF, RATP, mais ouais, c'est des grosses entreprises qui emploient beaucoup de monde au niveau des banlieues. Dans ma cité, j'y passe, je suis contrôleur. Mes potes proches, oui, ils savent. Après, je l'annonce pas. Après... T'es contrôleur banlieue à la SNCF, t'es beaucoup dans la lutte anti-fraude, donc t'es beaucoup dans la verbalisation. Je vais expliquer concrètement la procédure. La procédure, quand tu vois et tu contrôles une personne qui n'a pas de titre de transport, soit elle peut régler immédiatement, donc c'est un encaissement immédiat. Donc 100 billets, on va partir du principe où c'est une histoire de 100 billets, c'est 50 euros. Si elle ne peut pas payer, il faut impérativement une pièce d'identité. Si elle n'a pas de pièce d'identité pour faire un procès verbal, nous on a ce qu'on appelle une demande de relevé d'identité via la police. Puis ce qui fait ta paye aussi, c'est les encaissements. Tu vois, si tu encaisses tout de suite, il faut savoir que tu touches 10% de l'encaissement. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, au final ça te fait une bonne journée et voilà quoi. C'est l'encaissement immédiat en fait. Après, si tu as l'encaissement différé, ce qui c'est un procès verbal, tu touches, je crois, 80 centimes par procès verbal dressé, on va dire. C'est un travail, il est difficile. Pourquoi? En fait, ton cas d'école, c'est quoi? C'est toi et ta conscience, dans le sens où tu te dis, je vais faire tout le monde de la même façon. Ça veut dire, je vais verbaliser tout le monde de la même manière. Tu vas avoir deux personnes, elles n'ont pas de ticket. Mais elles n'ont pas forcément la même vie. Est-ce que toi, tu vas jouer, on va dire, sur le côté, regarde, la personne a une situation difficile, et si je lui mets un encaissement immédiat ou un procès verbal, ça va pas plus la mettre dans la galère, ou tu te dis tout simplement, non, tout le monde est de la même manière, comme ça j'ai pas de problème, j'ai pas de cas de conscience, je fais tout le monde de la même manière. Donc c'est un travail un petit peu dur, on va dire. Humainement, c'est dur. C'est au feeling. Déjà, si la personne déjà commence à mal parler ou autre, dans ma tête, moi je suis bête et discipliné, ça veut dire je vais la faire quoi qu'il arrive. Si elle me parle mal et tout, plus tu me parles mal, plus je vais pas lâcher. Si je vois la personne, elle est humaine, elle m'explique ses problèmes, c'est rapide, hein. Tu échanges 2-3 minutes avec des personnes. Il faut savoir que tu dois faire tout un train. C'est des fois 800 personnes, 900 personnes, 1000 personnes. Donc, tu n'as pas trop le temps en fait, de t'attarder sur des cas. Donc, il faut que tu ailles vite. Et voilà, en fait, c'est au feeling, dans le sens où si la personne elle est sincère, Après, t'en as, c'est des acteurs aussi. Hein. J'ai vu des personnes aussi, elles m'ont fait des douilles, elles l'ont mise à l'envers, et après, au final, bah, ça se passait pas toujours comme, comme ils présentaient les choses. Donc, ouais, c'est un petit peu au feeling. Après, c'est toi et ta conscience. Moi, la foi, ça s'est très mal passé. On embarque dans notre train, en direction des contrées lointaines du 78. Concrètement, je fais la personne, je la contrôle, pas de billet, je lui demande de régler immédiatement. Elle ne veut pas régler immédiatement, elle me dit qu'elle ne peut pas. Je dis ok, pièce d'identité. Je suis dans mon discours, monsieur, voilà, 50 euros à régler. Si vous ne pouvez pas régler immédiatement, malheureusement, on pourra une pièce d'identité, mais ça sera 20 jours de 50 euros. Et je vois, il commence, il me jette sa carte de séjour au visage, tu vois, mais il commence à baragouiner, je ne sais pas trop quoi, tu vois. Je fais son procès verbal et tout. Et je dis, ben voilà, monsieur, je souhaite comme une bonne journée. C'est un monsieur un peu frêle, peu âgé, il pouvait être le daron d'un pote à moi, tu vois, donc je voulais pas lui manquer de respect. Et je vois comment s'il insiste. Une fois, deux fois, je vais te casser la gueule et tout. Affaire réglée pour moi, je me barre. Mes collègues sont en train de continuer leur contrôle, donc moi je suis obligé de rester. Et comment s'il parle, il parle, mais fort. Imbécile. Et là, il se lève. Et là, il cherche un truc dans sa poche. C'est pas, il sort une lame. 12 et 15 centimètres comme ça, un gros couteau. Et au même moment, on arrive en gare et bah, comme quoi Dieu fait bien les choses, hein. Les portes elles s'ouvrent et la police fait hier. Des agents de la police ferroviaire, ils me regardent, ils me disent, bah, je lui ai demandé pourquoi il avait un couteau, il a dit il était marabout et c'était pour ses rites. Faut que tu déposes plainte et tout. Je dis, bah, vas-y, on va déposer plainte et tout. L'OPJ qui me reçoit, qui écoute ma plainte, donc ils me disent, bah, on va prendre sa déposition et on revient vers vous. L'OPJ me dit ça. On attend. Ils me rappellent, ils me disent, oh, problème. Je sais quoi, ça coïncide pas. Et bah, il me dit que c'est vous qui l'avez menacé, qu'il avait. On va faire une confrontation parce que vos collègues ils soutiennent ce que vous dites. Enfin, c'est la même version, c'est les mêmes mots. Et là, stupeur. Déjà, il nie tout. Je dis, monsieur, vous m'avez pas dit ça. Non, je regrette, je n'ai pas dit ça. Je dis, monsieur. Un monsieur de votre âge, faut assumer dans la vie quand même et tout. Bref, il me dit, ouais, de toute façon, je vais prendre ton ADN et je vais te marabouter. Il me l'a répété plein de fois, hein. Même à mes collègues, et tu vas avoir plein de problèmes dans la vie et tout. À un moment, il me colère, à un moment. L'OPJ, en fait, vu qu'il était gentil, mielleux et tout, il a contacté le procureur. Le procureur l'a dit, non, on donne pas suite et tout. Moi, j'ai fait me faire planter, mais en gros, ça s'est arrêté là. La personne qui a fait ça, qui a tenté de me planter, bah, elle est ressortie normale et tout. Quelques jours après, bah, j'ai ressenti des douleurs à l'abdomen, bizarre. Je commence à avoir des maux de ventre, maux de tête, maux de ventre et tout. Alors, en prenant des médicaments, il n'y avait rien qui passait en fait, toujours des fortes migraines et autres. Après aussi, tu avais une espèce de mal-être en toi. Donc, tu sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où, comment ça se passe. Et voilà. Donc, la logique étant musulman pratiquant, c'était, je me dis, bah, on va faire une ruqya, ce qu'on appelle une ruqya. C'est une séance avec ce qu'on appelle un aqi. Donc, c'est un exorciste musulman. Enfin, personne spécialisée en islam anti-maraboutage, on va dire, pour voir si j'avais quelque chose. On sait jamais. Hein. Donc, qui soigne tous les mal occultes. Donc c'est une médecine, on va dire, prophétique. Donc c'est une guérison via le Coran, on va dire. Et pour voir en fait si t'as quelque chose, l'œil, sorcellerie, héritage, tout ce que tu veux, quoi. Donc voilà. Et, nous on est très dans ça, hein. On est très dans la sorcellerie, le maraboutage et tout. On croit aux gens qui invoquent la force, côté obscur de la force. Et voilà quoi. Après, en fait, lui, il se fie aux traditions prophétiques pour te soigner. Ça veut dire qu'il va utiliser que des versets de Coran et c'est tout. Il va pas te dire, bah, faut que t'enterres quelque chose là-bas, que tu fasses ci, ça. Non, il va lire sur toi du Coran et en fonction de tes réactions, il va comprendre ce qu'on t'a fait. Donc, si on t'a fait avaler, on t'a fait manger quelque chose, une sorcellerie, si c'est via une photo, tout ça quoi. J'ai vomi, donc je sais pas si c'est lié par rapport à ça ou autre, même la personne n'a pas su me dire, mais en fait, j'ai vomi quelque chose qui était assez bizarre. Chose que je n'avais pas ingurgité dans la journée, bien évidemment. C'était comme si c'était des cheveux enroulé et c'était orange jaune bizarre. Donc t'as un suivi, la personne qui te fait ça en fait, elle te fait un suivi en fait. Donc c'est un traitement toujours à base de versets coraniques à réciter. Et pareil, ça va te faire faire, enfin tu vas avoir des réactions et autres. Tremblements, vomissements et autres. Un vrai tremblement. On parle pas du des petits frissons, non, c'est gros tremblements, l'impression de danser sur place et tout. Donc voilà. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, plus apaisé, plus léger. Voilà. Je l'ai revu avec sa tête là. Mais au final, il faisait comme si rien n'était. J'étais en mode mielleux, tout. Bonjour, enchanté, comment ça va? Il me parlait comme si le plus normalement possible. Comme si genre, c'était, j'avais bu un café avec lui la veille ou quoi. Bonjour, ça va, vous allez bien? Limite, il me tapait sur l'épaule. Ça va pas, mais bon, et toi, ça va? Tu vois, donc je parlais pas trop avec lui. Tu vois. Et après, j'ai envoyé mon collègue le contrôler, parce que phase d'hypocrite et tout, j'ai pas trop aimé. Il faisait comme si rien n'était. Ça risque de partir en cacahuète. Le mec, il a essayé de te planter. Donc t'as deux réactions, soit tu lui rentres dedans directement, tu dis espèce de petit bâtard, tu te souviens la dernière fois? Soit tu dis bah vas-y, on va essayer de passer au-dessus, tu vois, on va essayer de faire le mec civilisé, voilà. Et après même malgré qu'il ait fait ce qu'il a fait, bah ça reste un ancien, donc il y a toujours malgré tout le respect des anciens. Parce qu'au final il a rien eu en fait. Et il y avait un petit sourire en coin, genre tu sais, il haussait la tête et tout. Mais après c'est dangereux. C'est dangereux, pas pour moi, mais genre en gros, c'est le message que t'envoies aux gens, tu leur dis, bah écoutez, vous pouvez planter un contrôleur, il va rien vous arriver. Donc c'est dangereux un petit peu.
Je m'appelle William, j'ai actuellement 37 ans. J'habite dans les quartiers nord d'une ville du 93 assez connue et je suis un ex-contrôleur dans les transports en commun. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours parce qu'en vérité, comment ça s'est passé? À cette période-là, on sortait des émeutes de 2005. Il y a eu deux décès de deux jeunes d'un quartier connu aussi un peu plus haut dans le 93 là-bas. Suite à ces deux décès-là, ben, les quartiers se sont embrasés pendant au moins 3 semaines. Facile. Quand ils ont vu qu'ils tenaient plus leur jeunesse, etc., il fallait bien une carotte pour remettre tout le monde dans le rang. Donc ils ont commencé à vouloir ouvrir le recrutement massif dans les banlieues. Et c'est là où ils ont commencé à nous balancer ce projet de rénovation urbaine. PRU. Ces sigles-là, pour tous ceux qui habitent dans une banlieue, tous les quartiers dits sensibles, les UP, il fallait leur remettre un petit coup de propre. C'était tout un packaging. Il y avait d'abord rénové les murs des quartiers. Ils sont venus chez nous, ils ont commencé à casser des tours, à mettre des bâtiments plus courts, plus beaux, avec des loyers beaucoup plus chers, etc., etc. Et ensuite, ils sont passés sur les enfants des gens qui avaient du mal. Et ils sont venus nous chercher, en fait. C'était un peu le même principe que l'armée. C'était tellement déficit de moyens humains. Ils venaient faire du recrutement massif dans les collèges. Eh ben, ils ont fait la même chose avec les associations des villes, des communes, pour pouvoir justement interagir avec la jeunesse de là-bas, vu qu'ils n'avaient pas le pied dans le quartier. Et moi, j'ai fait partie justement de tout ce processus de recrutement. Et un soir, on m'appelle, on me dit pointe-toi au local. Une association qui s'occupait à faire de l'aide intergénérationnelle dans le quartier. Je me pointe, c'était pour un travail de médiation dans les transports en commun. Donc du coup, quand ils m'ont dit ça, au début, moi, je connaissais même pas en quoi ça consistait, etc. Je connaissais les médiateurs de la ville, qu'on voyait souvent dans le quartier. De toute façon, la plupart, c'était des grands du quartier. Et je connaissais pas la médiation dans les bus. Donc du coup, ben, j'y étais juste pour voir, en fait, c'était quoi la tête de cet emploi-là, en vrai. Via l'association de mon quartier, j'ai rencontré le monsieur en question qui m'a pistonné. Il faut parler français, c'était du piston clair. Parce qu'en vrai, il y avait des candidatures qui étaient beaucoup plus efficaces que la mienne sur ce jour-là. Mais comme j'avais un appui de taille, moi, je suis passé dans les mailles du filet. Et je suis entré comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis un mauvais agent non plus. Moi, je vais postuler pour faire de la médiation. C'est une fois en interne que c'est parti en cacahuète. Clairement, j'ai été recruté, j'ai passé ma formation et j'étais un peu virulent hein, quand j'étais jeune. C'est-à-dire que eux, pour un peu me canaliser, se sont dit, on va le mettre là où il tiendra pas longtemps. Donc quelque part, en fait, ils ont tenté de me virer par une technique d'intimidation psychologique. Ils m'ont juste enlevé de la médiation, ils m'ont fait basculer au contrôle en un week-end parce que j'étais trop virulent. Et ils n'arrivaient pas à me gérer. Je ne sais pas s'ils ne voulaient pas me garder, mais en tout cas, ils voulaient me garder, mais peut-être dans la manière comment eux, ils l'entendaient. Ils ne voulaient pas me garder comment moi, j'étais. Ils m'ont transféré au contrôle. J'ai eu du mal à m'adapter au contrôle au début. Parce que justement, je ne voulais pas être contrôleur. J'habite dans un quartier et difficile. J'ai grandi avec plein d'amour, mais il n'y avait pas d'argent. Donc tu as eu même les transports en commun. Je n'étais pas la pire sur nos parents et tout. Mais il faut assumer. Les transports, c'est pas gratuit. Nos parents, ils ont du mal. Donc du coup, ouais, on a beaucoup fraudé. Mais les contrôleurs, on connaît comment ils sont. Ils font de la répression. Ils sont pas là pour comprendre ce qui se passe dans ta vie. C'est un arbitre. Si je siffle, il y a faute, il n'y a pas faute. Et les mecs, c'est quand ils te pètent, ben soit t'as pas. Si t'as pas, je t'allume. Ce côté binaire-là, ça m'avait déjà fatigué déjà à l'époque. Mais je l'ai subi. C'était des relations très houleuses. Alors les premières semaines dans mon intégration au contrôle, ben, je refusais de contrôler. Pour moi, c'était déjà, un, je me voyais comme un vendu. De deux, j'avais trop subi avec eux. Et de trois, je me voyais pas retirer de l'argent dans la main de quelqu'un. C'était psychologique. Quand j'étais du matin, parce que j'avais deux créneaux horaires le matin et l'après-midi. Quand j'étais du matin, ben, je dormais dans le véhicule de fonction. Et l'après-midi, ben, je les regardais faire. Ça faisait presque 2 semaines que je ne branlais rien. Ah là, les directeurs se commencent à descendre, à appeler les chefs d'équipe pour leur dire qu'il va falloir gérer ce cas-là. Et là, il y a un des anciens de ma boîte qui a réussi à me trouver les mots. Parce que c'est un ancien aussi de qui connaît beaucoup de grands de ma ville. C'est un mec qui est d'un quartier aussi, c'est un grand quartier. Donc je pense qu'il a réussi à trouver les mots juste pour me faire déculpabiliser, pour montrer que j'étais à ma place et pour commencer à me remettre la main à l'étrier. Mais il a été bon parce qu'il ne m'a pas forcé à le faire. Il m'a dit, tu choisis à qui tu mets des amendes. C'est facile ça. Il m'a dit, celui que tu sens, mets l'amende à qui tu sens. J'ai dit, ok, au début, j'étais un fleuriste. Je laissais passer tout le monde. Parce qu'il m'a dit, non, là, ça ne peut pas le faire parce que tu fais perdre de la crédibilité à tes collègues. Et ainsi de suite, voilà, ça a commencé. Un mec qui parle mal à un client ou à une de mes collègues. Ah, je peux venir. Et ainsi de suite. Après, paf, une amende, des amendes. Une fois que t'as pris de l'argent dans la main de quelqu'un, je te jure, ça devient limite un peu jouissif. C'est bizarre, c'est malsain comme sensation. Parce que t'as réussi à plier à ta volonté quelqu'un. Et ça, c'est un truc de fou psychologiquement. Ça monte au cerveau. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'excès de zèle. Chez nous, les contrôleurs ne rentraient pas dans mon quartier. Interdiction. Je suis un jeune de la ville qui travaillait dans sa ville. C'est compliqué, surtout pour ce poste-là. Au début, c'est hoche. Parce que vas-y, ça parlait même plus avec moi, ça me filmait direct. Et dans mes réseaux sociaux, des fois, je voyais ma gueule. C'était chiant. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de Snapchat et tout. Hein, parce que c'était chaud. Heureusement, les petits, on n'était pas encore sur Twitter à fond, sinon j'aurais été entêté tous les jours. Ah non, c'était chaud, je me faisais vanner au quartier. Je me faisais terminer. C'était pas malsain, mais c'était chaud à vivre parce que ça, c'était récurrent tous les jours. On te croise, tard, tu te manges un missile. Oh, on te croise, tard, le soir, tu rentres du travail, t'arrives au quartier, tu veux te détendre, tu te détends pas. T'es sur la défensive tous les jours, j'avais le droit au son de Despo. Le son en question, c'est une musique d'un artiste qui s'appelle Despo Routier. Le son, il s'appelle Arrêter. Je vous laisse aller l'écouter. Et je récupère juste la punch en question. Mauvaise graine dans ta vie. En fait, ça me fait tellement du mal de le dire que je vais vous l'abréger, je la dirai pas complètement. En gros, tu vendrais tes parents pour des amendes. Tu mets des amendes à nos mamans noires et arabes qui souffrent pour nous faire graille. Et celle-là, tous les jours, j'avais droit. Tous les jours. Un temps, deux temps, jusqu'au moment où, paf, ça tombe sur moi maintenant après. Ah, en mode je travaille. En mode tu tombes sur tes gars, tu tombes sur des vrais mamans noires et arabes de ton quartier qui te connaissent. Des fois il y a pas, j'ai beaucoup sauvé les gens. C'était plus fort que moi, j'étais pas le contrôleur à l'affût du procès verbal. J'ai beaucoup eu de passifs avec les contrôleurs, donc j'ai toujours refusé de faire ce qu'on m'a fait à moi. C'est-à-dire, je me suis dit, ah, vas-y, je suis là, eh ben, je vais changer les choses de l'intérieur. Je vais changer la manière de penser des gens, je vais changer la manière de, des gens de voir les contrôleurs. Je vais me battre pour changer cette image de merde. Tout simplement, ben, cette fameuse phrase d'être un peu plus indulgent, ce mot-là, ce mot indulgence, l'indulgence, essayer de comprendre la personne que tu as en face de toi. C'est vrai que tu as un temps limité, mais il faut que justement tu sois efficace pour justement prendre la meilleure décision vite. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais t'es qui pour dire qui mérite ou qui mérite pas? Je suis personne, mais je suis un être humain comme tout le monde, donc je connais ce que c'est que des difficultés. Justement, faire preuve d'altruisme pour pouvoir, au cas par cas, soit en mettre ou soit pas mettre. Et ceux qui me connaissent, ils savent, j'en ai sauvé plus d'un. Et vous savez très bien que je les ai grave sauvé vos petits culs d'enfants d'immigrés, de ces fameuses salades. Parce que des fois, quand on est en opération avec les forces de l'ordre, il y a plus d'une fois où vous auriez failli finir vos culs en GAV. Pour un ticket à 2 euros. Le matin, on a beaucoup à faire aux gens qui travaillent et aux gens qui vont à l'école. Et je rentre dans un bus tout de suite. Je remarque dans le fond du bus comme ça. Je vois quelqu'un qui est déphasé de ce qui se passe. Il était blême. Le mec, il regardait dans le vide. Je me suis dit, waouh. Et ça se voyait parce que tout le bus, il bougeait beaucoup. Et c'était le seul qui ne bougeait pas. T'es très jeune d'âge. Je dirais un ado entre 16 et 18. Et je le vois comme ça, il n'est pas bien. Il me dit, oui, bonjour, toi. Voilà. Et je vois qu'il n'arrive même pas, même le bonjour qu'il m'a répondu, il était trop, tu vois, évasif. Je dis, bonjour. Titre de 30. Désolé, j'ai pas. Je dis, t'as pas, pièce d'identité. Tiens, j'ai pas. Je fais, ah gros, on va avoir un problème là. Il m'a dit, oui, effectivement, je suis dans la merde. Je lui dis, ah ouais. Pourquoi? Bah non, tu vas te manger une amende et puis après tu vas partir. Il m'a dit, je pense pas là. Peut-être que ma vie elle va se finir aujourd'hui. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je sais pas comment vous le dire, je sais pas comment. Et je dis, tu sais, des fois, la plus courte distance entre deux points, poteau, c'est la ligne droite. Donc si tu veux me dire un truc, vas-y, accouche. Il vient, il regarde grave à droite, à gauche. Je vois qu'il regardait beaucoup ce qui se passait en fait autour de nous. Tu vois, parce qu'il y avait la police justement qui était en bas du bus, qui les observait, tout ce qui se passe, etc. Et le mec, il me dit de me rapprocher comme ça. Et il m'ouvre son sac à dos. Je me penche et à l'intérieur, je vois quoi? Un bon petit carré bien compressé, bien emballé. De cannabis. Voilà. Un bon kilo. Ah ouais, dans un sac à dos d'adolescent. Il y avait une arme à feu. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça sur toi? Tu vas aller en prison? Je ne comprends pas. Il me dit, non, je suis dans la merde. Je dois livrer ça à quelqu'un là-bas dans une ville à côté. Et si je le fais pas, bah, je vais me faire fumer par les grands de chez moi. Je suis un résident de ce quartier-là. Et eux, ils m'ont vu fragile. Ils m'ont obligé voilà, à faire cette chose-là. J'ai dit, ah ok, ça c'est pas cool par contre. Ben, faut réfléchir vite, il faut agir vite. Ça contrôle, les policiers viennent, ils font descendre les gens. Donc la chance que le petit a eue, c'est qu'il y avait un autre mec qui avait aussi de la drogue sur lui, et ils l'ont fait descendre pour le contrôler plus en profondeur sur le trottoir. Donc j'en ai profité. J'ai dit au petit, bon voilà, tu vas descendre avec moi, pour pas que ça éveille les soupçons, je vais te prendre une fausse identité, je vais te prendre une fausse amende, je vais te mettre une amende avec un faux nom, faux prénom, et je vais te laisser partir avec le papier. J'ai vu qu'il a commencé à un peu reprendre ses couleurs. Il s'est rendu compte qu'il va peut-être me sauver vraiment. Donc du coup, je le fais descendre, tout. Je parle vite fait avec lui. Je lui demande, ouais, t'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ils t'ont fait ce qu'ils t'ont fait? Il m'explique un petit peu, voilà, j'ai pas de grand refrain, je suis fils unique. Donc du coup, je dis, tu sais quoi? Va faire ta livrette. Et je te donne un conseil. Essaye de soit déménager ou... Alors, trouve une solution, parce que ça va être chaud. L'ironie du sort en font que quelques temps plus tard, je l'ai recroisé avec sa maman. Et sa mère, elle m'a dit merci. Et la mère, de toute façon, m'avait dit qu'ils avaient déménagé d'ailleurs de ce coin-là. Là. Alors, moi, actuellement, je suis agent de médiation. Et je travaille la nuit et avantage de nuit est égal un salaire un peu plus onéreux. Objectivement, pour le métier que je fais, pour la charge de travail que j'ai, je suis extrêmement bien payé. Parce qu'il y a des mecs, ma gueule, ils sont sous la terre 12 heures par jour, gagne même pas la moitié de mon salaire. Donc du coup, je suis archi bien payé pour ce que je fais. T'as vu, je rentre chez moi, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal à... T'auras peut-être mal à la tête parce que c'est les humains qui vont t'éteindre. Mais à part ça, physiquement parlant, je suis assis dans une voiture. Je me lève très rarement de la voiture. Et en vrai, à mon poste, à moi, le poste que nous, on a, on interagit très rarement avec les clients. Ce sera plus avec les conducteurs, avec la régule et avec le PC sécurité. Tiens, on va vraiment gérer, en gros, demain, il y aura un accident. On va gérer la route directement, en fait. On va avoir une interaction avec les usagers de la route parce que la chaussée, elle est condamnée. Le bus ne peut pas passer. Nous, on va devoir gérer tout ça. Et c'est là où l'action de la médiation, en fait, elle va s'embriquer. Tu vas gérer du conflit parce que des fois, les gens, ils montent en tension. Donc, toi, tu vas devoir faire de la gestion de conflit, tempérer les gens et des fois, gérer le flux, trouver une petite, un passage, trouver une alternative à l'issue et essayer de décanter la route pour pas que ça reste bloqué, etc., etc., etc. Ça, c'est pour dans le cas où un bus, il tombe en panne. Ou des fois, ça peut être un accident entre civils, un accident de la route. Entre deux VL, ils viennent, ils se tapent dedans, ça bloque la route. Le temps du constat, donc le bus, il est un peu plus loin, il est bloqué. Et ensuite, on peut justement aussi interagir et trouver et solutionner les problématiques rencontrées au cours de l'opération.
C'était La vie mouvementée des contrôleurs, un reportage d'Aladine Zayan réalisé par Yael Mandelbaum. Merci à Fares et à William, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris. Et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.
Collection Mécanique du vivant, saison 2, Le requin. L'amoureux de la nature, Marc Mortelmans, vous raconte la place fondamentale des requins dans notre écosystème, de la surpêche qui menace leur fonction vitale pour les océans, au mystère de leur reproduction.
Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui ?
Mécanique du vivant, saison 2, Le requin. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France, avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.